Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour à tous.
Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, on vous convie à vivre un peu de l'âme coréenne. On va partager avec vous un moment avec les chamans.
Oh.
Oui, et puis Didier, tu nous expliqueras les vraies raisons des tremblements de terre au Japon, avec l'histoire mythique de Namatsu.
Tout à fait, c'est ça.
Bien, alors, d'abord une petite définition du chamanisme, Didier.
Oui.
Il a ses origines en Sibérie.
D'accord.
Et sûrement ailleurs.
Ouais.
En tout cas, celles qui nous concernent aujourd'hui viennent de Sibérie.
Oui.
Alors, le chamanisme est pratiqué dans de nombreux pays du monde et on peut le définir simplement comme étant un système de médiation entre les humains et les esprits et la nature. Et le chamanisme coréen a une particularité, il est à 99% aux mains des femmes.
Ah, enfin quelque chose détenu par les femmes en Corée.
Oui, et on va comprendre pourquoi.
D'accord.
Alors, c'est une tradition populaire vivace en Corée, où l'âme udang, c'est comme ça qu'on appelle la chamane, c'est le nom coréen, enfin
okay.
le mot qui est approprié, l'âme udang, est donc presque toujours une femme qui est censée communiquer avec le monde des esprits en recourant à la transe, la musique, le chant ou le conte. En tant que chamane, l'âme udang soigne, attire la fortune et communique avec les esprits des morts pour les apaiser. Et il y a longtemps, aujourd'hui c'est moins vrai quand même, elle pouvait parfois lancer des malédictions.
Ah, tout de même.
Oui, mais c'était un peu avant. Aujourd'hui c'est plutôt positif.
D'accord.
Alors aujourd'hui, beaucoup de Coréens, qu'ils soient athées, chrétiens ou bouddhistes, consultent des mudang en cas de maladie ou lorsqu'ils espèrent plus de chance en affaires, en politique ou en amour. Les gouttes, les rituels chamaniques, sont le plus souvent organisés lors de crises personnelles ou au moment de déménagement ou avant la construction d'un nouvel immeuble, par exemple.
Ok.
Alors même si cela peut nous paraître comme une superstition, il y a quand même 40 000 mudang officiellement recensés en Corée.
Tout de même.
Tout de même. Et plus de 100 000 selon les ethnologues. Alors ces chamans sont réellement les dépositaires des traditions et des coutumes populaires. Il faut savoir que le chamanisme a longtemps été diabolisé par les missionnaires chrétiens et condamné à la clandestinité durant l'occupation japonaise.
Oui, je ne suis pas surpris.
Voilà. Et ensuite, les chamans ont aussi été persécutés par les gouvernements militaires, hein, les dictatures, qui ont suivi la guerre de Corée.
D'accord. Mais alors, depuis quand, en fait, est apparu le chamanisme en Corée?
Alors, le chamanisme existe, le terme que j'aime bien, depuis la nuit des temps.
Ah.
C'est quand on ne s'est pas donné de date.
C'est ça, voilà.
C'était la seule religion avant l'arrivée du bouddhisme au 4e siècle de notre ère. Il s'est fondu avec lui, donc avec le bouddhisme, puisqu'il n'y avait pas d'opposition du bouddhisme avec les rites de vénération de la nature et des esprits de la nature. Alors, à l'arrivée du confucianisme, vers le 7e siècle de notre ère, l'influence du chamanisme a diminué. Et durant la période Joseon, rappelons-nous, la période Joseon, c'est du 14e siècle jusqu'au début du 20e siècle, a duré quand même très longtemps cette période Joseon, le chamanisme a été condamné et considéré par les élites confucéennes comme de simples superstitions.
D'accord.
Voilà, donc c'était, je dirais, clandestinisé, on va dire. Alors, souvenez-vous, chères auditrices et auditeurs, que Confucius avait dit « Le roi est le pilier de l'État, le mari est le pilier de la famille, l'homme est le pilier de la femme.
»
Ce qui veut dire que durant cette période Joseon, qui a duré plusieurs siècles, les femmes se sont retrouvées au plus bas de l'échelle sociale.
Clairement, oui.
Hein, puisque le code confucéen donne la prédominance aux hommes. Elles avaient alors perdu tout espoir d'atteindre un statut social élevé et on leur refusait également de nombreux plaisirs élémentaires, notamment le plaisir sexuel.
Bah tiens.
Voilà. Et cela a entraîné une frustration généralisée des femmes qui se sont mises à manifester des signes que l'on qualifiait d'hystérie, ce qu'on a retrouvé en Occident de la même manière. Hein.
Oui.
Hein, l'hystérie, Charcot, il connaissait bien, et j'y mets des guillemets.
Mm-hmm.
Alors, ces symptômes ont en fait été assimilés au fait que ces femmes étaient sensibles au monde des esprits. Donc ça les a servis en quelque sorte, oui, de manifester des signes d'hystérie en Corée. Et donc il y a des femmes qui sont devenues des moudangues grâce à ces signes de sensibilité au monde des esprits. Et les moudangues étaient donc de ce fait beaucoup plus libres que les autres femmes coréennes à cette époque Joseon. Elles étaient un petit peu mal, elles étaient quand même assez mal considérées, oui, un peu comme les fameuses kiseng, les courtisanes.
D'accord.
Et cette attitude de mépris envers les moudangues, elle s'est quand même maintenue jusqu'à la fin du XXe siècle,
ah,
très récemment.
Ok, mais alors, et qu'en est-il du chamanisme aujourd'hui alors en Corée ?
Alors, après son déclin durant la première moitié du XXe siècle, hein, avec la présence des Japonais, et puis après des dictatures militaires,
oui,
il connaît un renouveau auprès des jeunes générations qui trouvent des références culturelles qui leur sont propres, donc propres à l'identité coréenne. Et on voit même des hommes devenir moudang. Alors, ils ne s'appellent pas moudang, ils s'appellent, je crois, Pusan.
D'accord.
Puksan. Okay. Enfin bon, ils ont un autre nom.
Mm-hmm.
Je vérifierai.
Oui, je ne te contredis pas.
Voilà. Merci. Alors, les Coréens veulent maintenant retrouver leur tradition et leurs racines identitaires. Hein, après les 50 ans d'occupation japonaise, le temps qu'ils s'en remettent. Et puis, aujourd'hui, ils voient les choses autrement. Donc, ils veulent retrouver leurs racines,
ouais,
bien qu'il soit quand même difficile d'avouer que l'on croit au chamanisme.
Oui, ça reste quand même...
Toujours considéré comme une superstition.
Oui,
mais les chamans croulent sous les demandes de rituels, particulièrement lors des crises personnelles, professionnelles ou familiales.
Mais c'est ça, on n'avoue pas trop qu'on y va, mais on aime bien quand même se frotter à tout ça.
On aime bien, oui,
ouais,
ça peut être un plus.
Ok. Mais alors du coup, si je veux passer un master de chaman, comment je fais ? Il y a une formation, comment on devient chaman ?
Alors, les chamans ne souhaitent généralement pas devenir chamans, mais elles se sentent soudainement attirées par le rôle après avoir souffert d'un mal de l'esprit. On pourrait dire d'une dépression, de quelque,
ouais,
chose qui touche son intimité,
une souffrance
psychologique.
Mm-hmm.
Alors cela survient souvent après une tragédie dans la vie personnelle de la future chamane, et le mal de l'esprit ne peut être guéri que par la personne elle-même en devenant chamane. Du moins, c'est ce que certains croient.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de psychiatres et de psychologues en Asie, hein, faut le savoir.
Oui.
C'est autrement, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission.
Pourquoi pas ?
Alors, il y a même des jeunes filles qui refusent d'approcher même une moudangue, parce que si je vais voir la chamane,
ouais,
et si j'ai le don,
si quelque chose se révèle en moi, je vais être embêtée. Ouais.
Oui, je vais peut-être être obligée de devenir chamane.
D'accord.
Et c'est vrai encore aujourd'hui. Enfin, c'est vrai aujourd'hui.
Oui.
Hein. Voilà. Donc, c'est donc l'expérience personnelle de la chamane qui va déterminer son lien avec les esprits et son rôle de média entre les deux mondes. Les moudangues sont divisées en deux catégories selon la façon dont elles ont acquis leur statut. D'un côté, il y a celles qui sont possédées par les esprits, donc vont se réveiller chamanes, mm-hmm, bonjour, et celles qui ont reçu leur pouvoir de façon héréditaire par leur mère ou leur grand-mère. Ça se transmet de mère en fille,
oui,
et en grand-mère.
D'accord.
C'est matriarcal comme don.
Okay.
Elles vont ensuite se former avec des chamanes reconnus pour apprendre les rituels. Et les chamanes ont également d'autres capacités, comme celle de soigner, prédire l'avenir. Et elles pratiquent ce qu'on appelle le sadju, la lecture du visage.
Uh-huh.
Et c'est pour lire l'avenir. Hein. Et elles apprennent aussi à marcher sur des couteaux sans se couper.
Aïe.
Ouf.
Oui. C'est plus compliqué.
Oui, et c'est même très dangereux.
J'imagine bien.
Et une fois l'apprentissage confirmé, les moudangues s'aménagent un petit sanctuaire personnel,
mm-hmm,
avec des représentations de divinités, des accessoires spécifiques dans une ambiance particulièrement colorée et symbolique. Donc, ce serait bien qu'on entende de la musique traditionnelle,
oui,
qui est, jouée pendant les fameux gouttes, les fameux rituels.
D'accord.
Ça s'appelle Songju.
Voilà, j'ai été jusqu'au bout parce que, en fait, c'est un court extrait que nous avons sur ces
oui,
ces
ça peut durer
rituelles.
Des heures, oui, les rituels.
Donc, on n'a pas le temps. Donc, vous avez juste
c'est
un
dommage.
Petit extrait. Et alors, du coup, justement, on parle de rituels. Comment se passent ces rituels?
Alors, il existe différents rituels, plus ou moins complexes, plus ou moins longs. Mais le goût est le plus important de tous. Alors, pour le réaliser, on présente des offrandes, hein, de la nourriture, de l'alcool, etc.
D'accord.
Des fleurs, des bougies et toutes sortes de décorations. Et les chamans exécutent des danses typiques avec des instruments traditionnels coréens, avec des chansons et des prières. Alors, la mudang va entrer en transe en dansant pour inviter les dieux et les esprits à la cérémonie. Et ainsi, elle peut empêcher les esprits malins d'apporter la malchance aux humains. Elle peut aussi renvoyer les morts dans l'autre monde et demander aux esprits d'aider les malades, ou encore d'apporter le bonheur et la prospérité à la famille qui lui a demandé de l'aide.
Okay.
En fait, le goût a pour objectif principal de rétablir l'harmonie en créant une unité entre le ciel, la terre et les hommes. Et il y a des mudangs célèbres, hein, qui passent à la télévision et qui écrivent, et il y en a une qui a écrit « La mudang est capable d'unir ce monde séparé, de guérir les blessures et de recoudre ce qui est déchiré. » Moi, je pense qu'on aurait bien besoin de mudang en ce moment.
Ah, c'est possible. Alors, tu parles du goût. Moi, ça ne me parle pas beaucoup. C'est quoi un goût, ce rituel spécial coréen, là?
Alors, ils se disent vite, le goût se divise en 5 étapes. D'abord, il faut purifier le lieu du rituel avec de l'eau et de l'encens pour éloigner les esprits malsains et le malheur. Puis, la chamane va évoquer les dieux et les esprits en les invitant à participer, comme je vous le disais.
Ouais.
Ensuite, tout le monde prie. Tout le monde, tous les participants.
Mmh.
La chamane danse et chante alors de façon frénétique afin d'entrer en transe, puisque ce n'est qu'une fois possédée par les dieux et les esprits qu'elle peut leur donner la parole.
Mmh.
La chamane va interagir ensuite avec les participants en jouant, en montrant du mécontentement, de la joie, du chagrin, en posant des questions, en riant. Enfin, c'est très spectaculaire,
oui,
en fait,
ça,
un goût.
Ça a l'air, oui.
Voilà. Donc, on peut considérer que le goût est une fête pour les femmes, car cela leur permet de s'exprimer plus librement et de se sentir actrices de leurs croyances et de leurs aspirations. C'est très féminin, le monde
oui, je vois
des
ça,
rituels.
Ouais. Je vois ça. Mmh. Et alors, du coup, moi, si je veux rencontrer un chaman, la prochaine fois que je vais en Corée, je fais comment?
Alors, rencontrer des chamans en Corée, c'est facile. Alors, en France, il y en a peut-être. J'ai cherché,
ouais,
mais je n'ai pas trouvé le moyen d'en trouver. Alors, je pense qu'on peut trouver des charlatans, des usurpateurs,
ouais,
des faux chamans.
Oui, oui.
Mais des vrais, je n'ai pas trouvé. Mmh. Par contre, en Corée, c'est très facile. Elles ont leur boutique comme de petits temples ou un espace dans un café, généralement situé dans des quartiers animés à proximité des universités.
Ah oui.
Parce que, bah oui, quand on passe les examens, c'est bien d'aller voir la mudang.
On a besoin d'un peu d'aide.
Voilà. Et ce sont souvent des lieux coincés entre les restaurants, les cafés et les magasins de vêtements.
Oui, comme... ça a pignon sur rue, quoi.
Tout à fait. Okay. Ah oui,
d'accord.
Oui, c'est pas du tout caché.
Ouais.
Et il y en a beaucoup dans le quartier étudiant de Hongdae, à Séoul, un quartier d'université.
Mm-hmm.
Alors, l'atmosphère de ces lieux est souvent ouverte et lumineuse, contrairement à l'idée fausse selon laquelle ça pourrait être sombre et mystérieux.
Oui, c'est un peu ce
non, c'est attirant.
Dirait, hein.
C'est
d'accord.
Attirant. Il y a plein de couleurs. C'est très symbolique. Et l'activité des chamans s'est aussi largement développée sur Internet, hein, parce qu'elle se modernise. Et les mudangs, beaucoup de mudangs ont leur blog.
Mmh.
Et elles sont suivies sur Instagram, tout ça.
Mmh.
Alors, il faut savoir qu'il n'est pas possible d'être spectateur d'un goût. Il faut être participant.
Ah oui.
Donc, on peut payer un rituel, nous, en tant qu'étrangers, alors même si ça peut faire douter la mudang de la réussite, mais on ne peut pas être spectateur.
Il faut s'investir.
Il faut être, et avoir une demande à faire.
Oui,
par contre, il y a des spectacles de danse rituelle qui peuvent être organisés, auxquels on peut assister.
Là, c'est du spectacle, c'est pour pouvoir profiter...
Voilà.
De cet art, en fait, aussi en même temps.
Bon, on va quitter le goût et puis on va retourner dans les temps modernes avec Yui qui nous chante Again.
Alors,
c'est sur Radio Alpa 107.3.
Écoutons.
してる分かって くれますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。君の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中。
C'était Yui avec Again dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3. On était parti au Japon là un petit peu, Didier.
Un petit peu, oui.
Avant que tu nous racontes Namazu, quel est le rôle de Namazu dans les tremblements de terre au Japon, Didier?
Namazu, eh bien, c'est un poisson-chat légendaire, énorme, puisque c'est lui, que repose l'archipel japonais. Tout de même, on dit qu'il est à l'origine des nombreux séismes qui frappent le Japon. Lorsqu'il se met à bouger. C'est une légende populaire de l'époque Edo au XVIe siècle qui raconte que Namazu est maintenant maintenu immobilisé sous terre par une pierre sacrée qui lui a été plantée dessus par le dieu Takemi Kazuchi.
D'accord.
Alors, on retrouve son image régulièrement dans la culture japonaise populaire, par exemple, comme enseigne des boutiques de restaurants.
Ah oui, donc on pourrait penser qu'on mange du poisson, mais... Peut-être, remarque.
Alors, peut-être qu'on en mange, peut-être mais ce n'est pas que pour ça
c'est pas que pour
qu'il
ça.
Est là. Voilà.
Il est célèbre pour autre chose.
Voilà.
Alors, pourquoi cette histoire de Namazu?
Alors, il faut se rappeler que le Japon est un archipel situé sur quatre grandes plaques tectoniques. Ça,
oui, c'est vrai.
Il n'y a aucun doute. Hein, l'actualité nous le dit encore.
Oui, la fosse Marianne aussi.
Voilà.
C'est très profond, très haut, très mouvementé.
C'est ça. Et depuis toujours, le Japon connaît des séismes plus ou moins forts et destructeurs. Le dernier en date justement de janvier 2024, 7,6 de magnitude, c'est pas rien. Il a été dévastateur, 126 morts tout de même, avec 210 disparus et 516 personnes blessées. En plus, quand on connaît les normes antisismiques du Japon, c'est vraiment énorme.
Parce c'est vraiment énorme.
Ils sont préparés à ça. Et d'énormes dégâts matériels avec des glissements de terrain, etc. Donc, les Japonais ont toujours eu besoin d'expliquer ces phénomènes naturels bien avant... On a des connaissances scientifiques. Namazu a ainsi été intégré il y a très longtemps au catalogue du folklore traditionnel japonais. Les différents récits mythologiques qui font référence expliquent que le pays repose sur l'épine dorsale d'une bête monstrueuse associée à l'eau et dont les mouvements seraient à l'origine des secousses régulières de la Terre. Voilà.
Oui, c'est une image intéressante.
Oui, c'est étonnant.
Mais pourquoi ont-ils choisi un poisson-chat?
Il y a encore plus longtemps, la légende parlait d'un dragon.
Wow.
Puis, Namazu est devenu poisson-chat au fil des siècles. Alors, quelques mots sur le poisson-chat.
Oui, il y a une raison pour ça.
Oui, en français, on l'appelle aussi silure. Ça, il est connu des pêcheurs. C'est un gros poisson carnassier avec des barbillons autour de la bouche.
Oui, il n'est pas très beau.
Mais il peut être énorme. Hein. Ce poisson qui vit dans les profondeurs des lacs d'eau douce est sensible aux champs électriques générés en souterrain. Et les Japonais ont observé qu'il s'agitait à la surface de l'eau juste avant un tremblement de terre.
Très utile, alors, effectivement.
Ça peut, du coup, oui.
Les silures.
C'est ça.
Et c'est aussi pour ça, j'imagine, comme il est très utile, qu'on le voit beaucoup représenté.
Eh oui. Oui, la légende de Namazu est devenue très populaire, surtout après les trois grands séismes survenus entre 1854 et 1855, dont un particulièrement violent et meurtrier qui avait frappé Tokyo. Bon, à cette période, et pour se protéger d'autres futures catastrophes, les peintres d'estampes japonaises ont peint beaucoup de représentations du Namazu. Alors, c'est Yukio-i raconte de manière illustrée l'histoire légendaire et servent également de talisman pour demander la protection du dieu du tonnerre, Take Mikazuchi, le kami qui a posé la pierre sur le Namazu pour protéger les humains, justement.
D'accord. Ah oui, donc ça nous renseigne beaucoup sur aussi le contenu des fameuses estampes japonaises. Ça nous donne des petites clés de lecture.
C'est ça aussi. Alors,
qui est le kami Takemi Kazuchi?
Takemi Kazuchi est donc la divinité qui a réussi à immobiliser Namazu. Mais il est aussi le patron des arts martiaux. C'était aussi le dieu de la guerre.
Ok.
On peut voir la représentation symbolique de la pierre de Namazu dans le grand sanctuaire shintoïste de Kashima Jingu, au nord de Tokyo, dédié à ce kami. C'est un monolithe planté dans le sol, dans l'enceinte du temple. Alors, d'après la mythologie shintoïste, Takemi Kazuchi est né du sang adhérent à la lame qu'utilisa Izanagi, pour tuer le kami du feu Kagutsuchi.
Ah oui, Izanagi et Izanami, les dieux fondateurs
c'est
du
ça.
Japon.
Voilà, on a déjà évoqué. La légende dit aussi que Takemi Kazuchi envoya son épée à l'empereur Jimmun, le fondateur mythique du Japon, pour l'aider dans la guerre qu'il menait contre d'autres chefs. En raison de son lien avec le sabre, Takemi Kazuchi est toujours considéré comme un patron des arts martiaux.
D'accord. Oui, ben, tout s'explique toujours au Japon.
Oui.
Enfin, en Asie.
C'est ça.
Alors, pourquoi avec un tel pouvoir, s'il a beaucoup de pouvoir quand même, ce Takemi, tout ça?
Oui, oui.
Il y a toujours des séismes au Japon. Et comment ils expliquent ça?
Alors,
Namazu, parce qu'il est inefficace quand même.
Pas totalement en tout cas.
Pas totalement, voilà. Non, pas totalement.
On n'arrive pas à le maîtriser totalement. Namazu, il est très fort.
Oui.
Et même le dieu du tonnerre ne peut totalement l'empêcher de bouger.
D'accord, oui.
Aussi, certaines estampes montrent la faiblesse du kami.
D'accord, c'est raconté aussi ça.
Oui, c'est ça, qui se distrait parfois et qui relâche Namazu, ce qui entraîne un séisme. Voilà,
c'est ça,
fait,
oui, il doit fatiguer un certain moment,
ça,
il relâche la
kami
pression.
Le kami se distrait, il relâche la pression et puis voilà.
Et boum.
Tout de suite, on en a des conséquences, un séisme, c'est ce que nous dit la légende. D'un autre côté, Namazu n'est pas forcément complètement mauvais pour la population. Et ces mouvements de destruction peuvent finalement apporter une certaine richesse aux travailleurs, notamment pour ceux qui sont chargés de reconstruire, forcément. Et ça, c'est toujours le pragmatisme japonais.
Ah oui, c'est une façon de voir les choses,
bien
effectivement.
Sûr. Si ça détruit, ça donne du travail, au moins.
Et oui.
C'est toujours ça. C'est pourquoi certaines estampes représentent le poisson-chat en compagnie de Deiko Kuten, l'une des sept divinités japonaises du bonheur, malgré tout.
Eh oui.
Bon, Namazu pourrait également symboliser le yin et le yang et provoquer des séismes lorsque l'équilibre cosmique n'est pas respecté.
Alors, qu'est-ce qui est devenu Namazu dans la culture contemporaine? Est-ce qu'il y a des traces de Namazu? On l'a vu qu'il était dans les estampes,
oui,
qui servait de talisman,
c'est
etc.
Ça, ouais. Au-dessus des restaurants, tout ça.
Oui.
Alors, aujourd'hui, donc, la figure de Namazu est régulièrement utilisée par des institutions japonaises pour illustrer les panneaux d'indication de circulation en cas de gros tremblements de
donc
terre.
Donc on peut les voir dans
c'est
la rue.
C'est un symbole, voilà, c'est un repère aussi.
Enfin,
pour
sur
les
des
gens.
Routes.
Oui. Au sein de la culture populaire, les représentations de Namazu sont nombreuses. Il y a le Pokémon Barbie-chat. Ça va plus parler à mes enfants, ça. Des fans de Pokémon baptisés Namazu en japonais. Il fait directement référence... Namazun, pardon, en japonais.
Ah bah oui, Namazun.
Oui, je confonds là. Il a été un peu modifié, qui fait directement référence au poisson-chat et à ses facultés de provoquer des secousses sismiques. Ça doit faire partie de ses petits pouvoirs. Alors, et aussi en France, le parc Vulcania, en Auvergne, qui a inauguré en 2021 une nouvelle attraction baptisée Namazu. Qui,
ah oui, Namazu est venu jusqu'en,
oui, oui, jusqu'en Auvergne.
Jusqu'en Auvergne.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'on a nos volcans aussi. Hein.
En même temps, voilà, quand on a un parc d'attractions qui parle des volcans, bah, Namazu a tout à fait sa place.
Oui, c'est vrai.
Alors, ça sensibilise en fait les plus jeunes aux phénomènes naturels des tremblements de terre, parce que bah, c'est aussi une image quoi, qui peut être intéressante pour véhiculer tout ça auprès des jeunes de ce parc d'attractions.
Oui, bah c'est bien intéressant, le personnage de Namazu. Bah, j'espère qu'à Vulcania, ils expliquent qu'ils n'ont pas fait que d'avoir appelé l'attraction Namazu, c'est qu'ils expliquent aussi un petit peu l'histoire de Namazu.
Alors, j'y suis allé il y a un petit moment de ça, mais il n'y avait pas encore Namazu à l'époque.
Ah oui, c'est récent,
c'était ciblé, oui, c'est 2021.
Ah oui, c'est très récent.
Donc, c'est, voilà.
Faudrait qu'on y retourne.
Voilà. Ce sera peut-être l'occasion pour cet été à certains qui seront dans le coin d'aller voir ça à Vulcania et d'avoir une petite pensée pour nous.
Oui, c'est ça. Et puis de nous dire si ils ont pensé à expliquer, à raconter l'histoire de
Namazu. En attendant, on va souhaiter que le Camille se tienne tranquille, ne soit pas trop distrait, maintienne bien
la pierre,
le monolithe, et qu'il évite de trop bouger parce que, mine de rien, ça fait quand même des blessés, des morts, et ça reste
tragique,
tout ça. Voilà.
Bon, Didier, merci.
Oui.
Asialogie, c'est fini. Les amis, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et dans Asialogie. Salut.
Salut. On vous souhaite effectivement, enfin je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.